Rien n'est joué, Lydia Gabor.
Tu n'imagines pas à quel point l'amour vous transforme un homme. En plus, on en arrive à un certain ras-le-bol. On en a assez à la longue de tout ce cirque.
Mais de quel cirque?
Tout le cinoche de la vie de garçon. On branche une fille, ensuite déjeuner test, on décide que ça vaut le coup d'aller plus loin, d'où dîner, on sort en boîte, petite lambada BCBG, on monte chez la belle, on fait l'amour, et à peine terminé, tu ne sais pas à quoi on pense? Combien de temps va-t-il falloir que je la garde dans mes bras avant de me lever et de rentrer? 30 secondes, ça suffit.
C'est ça que vous avez dans la tête? C'est la vérité?
Oui, pense tous à ça. Toi, il faut te câliner combien de temps après l'amour? Toute la nuit, non? C'est ça le problème. Ça se balade entre 30 secondes et toute la nuit. Ça, c'est votre problème.
Bonjour et bienvenue à vous tous. Cet extrait du film quand Harry rencontre Sally pour vous mettre sur la piste de notre sujet d'aujourd'hui qui sera la rencontre amoureuse, les relations hommes-femmes autour d'un recueil de nouvelles intitulé « Le fou de l'autre » aux éditions Noir sur Blanc. C'est un ouvrage qui donne le ton avec une citation. Ouvrez les oreilles, j'ouvre les guillemets. Il est difficile d'être une femme, toutes s'en plaignent. Il est impossible d'être un homme, aucun n'y parvient. Le tout est signé Sophie Kepes, qui est notre invitée ce matin, écrivaine, traductrice. Et vous enseignez aussi la création littéraire à l'Université Paris 3 et aux adolescents en difficulté. Bonjour Sophie Kepes.
Bonjour Lydia.
L'écriture, c'est vraiment votre passion. Et ce recueil de nouvelles, Le fou de l'autre, est votre premier recueil de nouvelles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à ce genre très particulier de la nouvelle?
C'est une question que j'ai commencé à me poser quand ça m'est venu, c'est-à-dire il y a environ 2 ans. Étant donné que jusqu'alors j'étais pure romancière, donc si vous voulez la métaphore sportive, ça serait j'étais une coureuse de marathon, de demi-fond, et puis d'un seul coup, voilà, émerge le besoin d'écrire sous une forme beaucoup plus dense et plus courte la nouvelle. Et je considère que, en plus, la nouvelle est un art extrêmement difficile, dont la maîtrise requiert beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et de talent. Alors, je ne sais pas si j'ai tout ça, mais voilà, ça m'est arrivé. Il me semble que c'est quand même une preuve d'une certaine maturité, oui. C'est parce que ce qui déclenche chez moi le désir d'écrire des nouvelles, bon, il y a le désir tout simple de raconter des histoires vraiment très, très modestes. J'ai plein d'histoires à raconter qui ne peuvent pas trouver leur place dans un roman. Mais c'est aussi la mise en perspective avec le passé. C'est-à-dire le choc, petit choc, vous savez, qu'on ressent quand on est confronté à une personne, un décor, une expérience du passé. Et là, je me dis, ah oui, il faut absolument que je raconte ça dans une nouvelle.
Alors, on va vous découvrir tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble pour donner envie à nos auditeurs. Ce sont 7 rencontres amoureuses, 7 nouvelles qui ont chacune une force comme ça de frappe. Mais j'ai envie d'évoquer avec vous le ton caustique. Vous avez un ton très ironique et vous jetez sur les hommes et sur la rencontre homme-femme un regard très ironique. Pourquoi ?
Oh, écoutez, je pense que c'est ce qu'Oscar Wilde disait, c'est l'humour noir surtout, c'est la politesse du désespoir. Donc il y a un côté désespéré. Mais pas seulement sur les hommes, mais sur la rencontre amoureuse, sur la narratrice aussi, puisqu'il y a une narratrice unique qui n'est pas très définie. On peut imaginer qu'elle a entre 30 et 40 ans, mm-hmm. Elle est seule dans la vie.
Elle n'a pas d'enfant.
Elle n'a pas d'enfant, on imagine qu'elle est vaguement littéraire, en tout cas elle a un métier intellectuel, on ne sait pas exactement quoi. Et puis elle a eu un certain nombre d'histoires, dont certaines ont compté et certaines ont plus ou moins cassé le fil de sa vie, qu'elle reprend péniblement. Mais je pense qu'elle a beaucoup d'autodérision aussi, pas seulement de la dérision, hein, pas seulement. Et pas mal de tendresse aussi, j'imagine. Elle a sans doute absolument besoin d'aimer, elle a besoin d'avoir un compagnon, des choses très partagées, je crois. Mais ça se passe pas bien. Et alors, cet humour noir, c'est toujours dans des situations quasi désespérées, des situations où finalement elle souffre et elle est même en danger de vraiment se briser. C'est le moyen de reprendre la main sur son destin, c'est-à-dire de redevenir sujet de sa vie, sujet actif de sa vie. Donc l'humour lui sert à ça, mais pas seulement. Par exemple, dans une nouvelle, la poésie lui sert à ça.
C'est une sorte de galerie de portraits. On va en évoquer un ou deux rapidement. Il y a Julio qui est psy et qui ébruite ses performances sexuelles dans tout l'immeuble où il vit. Il y a Nick qui est l'amant grec, mais d'une telle caricature qu'on rit depuis la première fois jusqu'à la dernière. Il y a aussi l'amant qui demande à ce qu'on lui coupe les ongles des pieds comme au sommet de l'acte érotique. Est-ce que ce sont des personnages surgis de votre imaginaire ou il y a quand même un rapport à des rencontres ?
Écoutez, on écrit toujours en puisant dans son expérience vécue, ça c'est certain. Maintenant, vous dire quelle est la proportion de fiction pure, enfin d'imagination et d'exagération et la proportion d'autobiographie, c'est quasiment impossible pour moi. Alors, quand les lecteurs me posent cette question, je m'en sors par une pirouette, donc je vais vous la servir.
Allez-y.
Aussi. qu'est-ce qui est autobiographique dans ce livre ? Alors, je réponds, vous pensez à la page 132, et alors le lecteur se précipite sur la page 132.
C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Oui.
Qu'une pirouette. Non, mais bien sûr, tout est inspiré du réel. Mais ce qui compte en littérature, c'est le regard, c'est-à-dire la sensibilité, le regard de l'auteur. Et bien entendu, son art, son talent, c'est-à-dire la capacité qu'il a d'user de son médium, qui est le langage, l'écriture, pour faire passer ses expériences et surtout les affects qui sont liés à ses lecteurs. Donc, c'est ce que j'essaye de faire.
En tout cas, vous y arrivez très bien. On va en parler plus tout à l'heure, mais j'ai envie de l'évoquer déjà. Vous êtes aussi traductrice du hongrois. Et comment se passe justement cette libération ? Parce que dans la traduction, on est quand même pris dans l'univers de quelqu'un d'autre qu'on essaie de transmettre le plus fidèlement possible. Et puis quand on écrit, comme vous venez de dire, de la fiction, de la narration, on trouve notre propre style. Alors comment vous naviguez entre ces deux exigences ?
Alors ça, c'est extrêmement juste. Vous avez dit, on est pris dans la narration de l'autre. Donc d'abord, j'avais le désir de devenir traductrice littéraire du hongrois depuis très jeune, mais le désir d'écrire encore plus jeune. J'ai vraiment eu cette vocation très très précocement. Et pour moi, d'abord, ce sont deux choses liées. Écrire, évidemment, on puise dans son univers personnel et traduire, le traducteur, pour moi, c'est une variante d'écrivain. C'est important de le dire. Et simplement...
Vous voulez dire que vous recréez un petit peu... Dans la langue de traduction.
Voilà. Oui. Absolument. Donc, vous savez, on traduit toujours de la langue, la langue source, on traduit toujours vers sa langue maternelle. C'est fondamental. Donc, pour moi, du hongrois vers le français. Et alors, en effet, je ne peux pas faire les deux parallèlement. C'est-à-dire, je dois soit traduire, soit écrire. Et quand l'univers de l'auteur que je traduis est très éloigné du mien, je vais vous citer Peter Esterhazy, par exemple, je reste sous son emprise pendant quelques temps, voire quelques mois après la fin de la traduction, et j'écris mais à sa manière. Donc je suis littéralement habitée, possédée par l'écriture de l'autre. Donc c'est très désagréable. En revanche, quand je traduis Dezső Kostolányi, qui est mon grand amour, un écrivain hongrois, un classique du XXe siècle, première moitié, c'est du bonheur parce que j'ai l'impression de me traduire moi-même, mais en mieux, parce qu'il est tellement génial. Et lui-même était traducteur. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer ce qu'il disait de la traduction. Traduire, c'est exécuter une danse, pieds et poings liés.
Nous sommes donc en votre compagnie, Sophie Kepes, jusqu'à 11h autour de ce recueil de nouvelles, Le fou de l'autre, mais aussi de votre passion de l'écriture. Le temps d'une chanson, et ça sera tout à l'heure le temps pour le billet de Lucas Torrent, Dans le sens du poil, qui est notre manière de vous dire bonjour dans l'émission. Bienvenue à tous.
Rien n'est joué, jusqu'à 11h sur la première.
À quoi tu joues, beau ténébreux, avec tes yeux couleur d'automne, tes joues qui fondent, le ventre creux, qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime. Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du mélo. Et ton œil noir, et qui se pose sur mon peignoir, cauchemar frayeur et gros chagrin. Tu as rêvé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu, et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du mélo. Tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux, que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du mélo, je suis la Vénus du mélo.
La Vénus du mélo, Stassi cante sur Radio Suisse Romande la première, où il est, c'est le moment un peu émotionnel où on vous rencontre. Lucas Thoran, bonjour.
Bonjour. Alors Sophie Kepes, j'ai pas mal hésité sur le thème de ma chronique. Allais-je parler de l'écrivaine? Allais-je parler du livre, de ce recueil de nouvelles sur l'amour, hein? C'est vrai que j'étais assez interpellé par votre nouvelle sur l'impossibilité d'une relation entre un homme et une femme pour cause de mentules surdimensionnées. Mais pour finir, moi qui suis fasciné par l'ailleurs, hein, l'ailleurs avec un grand A, comme le local à balai caché derrière les toilettes, derrière la cafétéria, eh bien je ne peux pas résister à parler de la Hongrie. Car Sophie Kepes, on l'a dit, vous êtes à moitié hongroise par votre père et vous traduisez des livres du hongrois vers le français. Et là, quand ça a été annoncé, je suis sûr que toutes les personnes qui ont une maigre notion de la langue magyare ont lâché un cri qui venait du cœur, hein, parce que même si on ne connaît pas grand-chose sur la Hongrie, il y a une chose qu'on sait, le hongrois est une langue complètement absurde. Hein. Le hongrois, ça ne ressemble à aucune autre langue. Non, c'est pas vrai. Ça ressemble un peu au finnois. Hein. Manque de bol, le finnois est aussi une langue qui ne ressemble à rien. Durant mes vacances en Finlande, hein, je lisais les étiquettes de composition de hareng fumé en bocal pour savoir si oui ou non il y a du sucre. Et là on parle de survie, hein, parce qu'en Finlande le seul produit de consommation courante qu'on trouve c'est du hareng en bocal, et quand en plus il est mariné à plus de 70% de sucre, la vie de tous les jours devient très difficile. Et bien en finlandais, pour trouver le mot sucre, c'est impossible. Alors qu'est-ce que je faisais? Ben, je me rabattais sur le suédois, où sucre se dit sucker, et là tout d'un coup on a l'impression de parler couramment suédois. Et bien le hongrois c'est le même combat, hein. Sucre se dit pas sucker, sugar ou sucre, non ça se dit kukor. Et là encore je suis sûr que je prononce comme une baleine asthmatique, hein. Kukor, oui, merci. Mais vous imaginez un peuple qui dit kukor pour sucre? C'est même plus exotique que manger une banane avec la peau, ça devient carrément inquiétant. Hein. Et puis alors, j'ai appris grâce à vous, grâce à un article que j'ai trouvé sur le net, Sophie Kepes, que la structure même de la langue magyare est complètement différente. Hein. Je vous cite, il n'y a pas de genre, mais pas moins de 9 cas locaux. Alors là, c'est déjà tellement loin de nous que même en français, je ne sais pas ce que ça veut dire. 9 cas locaux, c'est incroyable. Déjà, genre, j'ai dû réfléchir, mais bon, bref. Donc, c'est un pays dont la langue est lointaine. Et nous, ici en Suisse, bah, qu'est-ce qu'on sait de la Hongrie ? On ne sait absolument rien. Il y a toujours cette vieille image d'Épinal qui colle à la peau des pays de l'ex-bloc communiste. Vous savez, des usines géantes crachant des noirs miasmes dans des villes défigurées avec des statues de Lénine géantes et des queues devant des magasins où tout ce qu'on peut trouver, ce sont des boîtes de harengs marinées au sucre en boîte, mais périmées. Et c'est la grande différence avec la Finlande. Et je me rappelle quand même quand j'étais petit et qu'on parlait des pays communistes, on disait « Oui, mais la Hongrie s'en sort mieux que les autres parce qu'ils ont un système un petit peu capitaliste, alors ça marche mieux. » Bon, alors, toutes ces images d'Épinal, on peut les enlever. Qu'est-ce qu'il nous reste sur la Hongrie ? Ben, il nous reste qu'ils mangent tout le temps du poivron qui saupoudre de paprika, un peu comme nous le fromage, et puis qu'ils aiment par-dessus tout se baigner dans des bains thermaux. Donc, vous êtes d'accord, on n'a pas vraiment avancé. Hein. Quel est cet homme ? Quel est ce pays ? Quelle est cette nation ? Quelle est cette culture ? Où trouver une porte ? Où trouver un accès ? Où trouver la clé pour commencer à comprendre ces gens si exotiques ? Eh bien, je crois que j'ai trouvé. 1975, Erno Rubix. Hein. Ce casse-tête psychédélique et hongrois, le Rubik's Cube et hongrois. Et là, c'est sûr, ça confirme ce que je soupçonnais, ce peuple a vraiment l'esprit tordu.
Rien n'est joué sur la première.
Voilà, Sophie Kepes, c'est très, très joli portrait, ça vous fait réagir, est-ce que tout ce qu'il dit est vrai ?
Oui, merci Lucas, oui, il s'est vachement bien renseigné.
Oui, j'ai beaucoup bossé, ouais. Je suis allé là-bas en fait 2 mois pour vraiment m'immerger dans la culture hongroise et c'est ce
rien
que je ramène.
Rien pour cette émission, bravo. Oui. Non, c'est vrai que c'est une langue absurde, alors elle est aussi cousine de l'estonien, je tiens à le rappeler, parce que voilà, ce sont 3 cousins, le finnois, l'estonien et le hongrois, qui sont les seules langues non indo-européennes parlées en Europe. Enfin, quand même, je vous rappelle que la Hongrie fait partie maintenant de l'Union. Alors,
oui, voilà, mais pas nous, donc vous voyez, ça reste très loin.
Oui, je sais, mais bon, ça les a un petit peu rapprochés, on va dire, des Occidentaux, pour parler rapidement. Alors, pour les cas locaux, je vais faire l'impasse, hein, je ne vais pas vous expliquer, ça c'est une histoire de linguistique. C'est simplement, c'est vrai que ça montre à quel point, je ne sais pas si ça s'appelle l'esprit de la langue, mais mettons, voilà, l'esprit d'une langue, c'est quelque chose de très profond, très spécial, de très culturel. Qui se réfère à l'histoire. Et bon, c'est sûr que si vous apprenez le hongrois, vous avez quand même une chance, c'est que ça s'écrit en alphabet latin, déjà. Merci.
Déjà bien, oui. Pas cyrillique.
Non, donc on n'a pas à faire trop d'efforts de ce côté-là. Mais le côté absurde, oui, c'est presque... Je me souviens quand j'allais à la bibliothèque du Centre Georges Pompidou pendant mes études, la langue hongroise était classée juste à côté du rayon science-fiction. Donc ça vous donne un petit peu trop raison, c'est vrai. Mais... Bon, le hareng, il n'y a pas de hareng en Hongrie. Vous avez pointé justement le fait qu'en revanche, il y a du paprika absolument partout. Donc ça, c'est bien vu. Et puis c'est vrai qu'on disait que c'était la baraque la plus gaie du camp socialiste à l'époque, avant la fin du totalitarisme. Mais c'est vrai que c'était... c'est peut-être ce côté... donc les Hongrois ne sont pas des Slaves, voilà, je le rappelle. Et donc c'est peut-être ce côté un peu particulier qu'ils avaient de prendre les choses avec un certain humour, une certaine capacité de dérision, un peu plus peut-être de punch que leurs frères polonais ou tchèques ou slovaques. Et c'est pour ça qu'il... Enfin, et puis le système débrouille, vous voyez, était quand même très, très fort. Enfin, on s'en sortait mieux, mais là, bah, ça rejoint un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est plus une question d'attitude par rapport à l'inévitable. Mais la vie n'est pas facile.
C'est quand même le premier pays en 1956 qui a essayé de se révolter contre l'occupation. Oui. C'est aussi c'est cet humour. Enfin, ils n'ont pas arrêté tout au long de ces 50 ans de dire aux Russes rentrez chez vous, grand frère, on ne vous veut plus chez nous. Donc c'était une attitude. C'était aussi des catholiques, hein, peut-être, ce qui les reliait plus à l'Occident que d'autres, comme les Roumains ou les Bulgares qui étaient orthodoxes, qui les reliaient plus à la Russie ou à l'Orient. Hein. C'est des raisons aussi comme ça.
Oui, puis je crois, bon, le Danube est une espèce de frontière naturelle. Et bon, en fait, ils étaient sous l'influence occidentale, puisque les Hongrois faisaient partie de l'Empire austro-hongrois, enfin les Habsbourg. Donc, si vous voulez, parmi ces pays qui ont subi le joug soviétique pendant si longtemps, il y avait quand même ces différences historiques et culturelles très nettes, puisque la Roumanie, la Bulgarie, l'ex-Yougoslavie avaient une espèce de culture un tant soit peu plus orientale, disons. Ils avaient été sous influence byzantine, alors que les autres étaient plutôt du côté romain et autrichien. Donc il y avait une différence aussi à ce niveau-là. On ne peut pas mettre tous ces pays-là dans le même sac.
Voilà. Luca Torrent, quelque chose ?
Non, c'est vrai, j'ai appris beaucoup grâce à vous, merci.
Donc on vous retrouve lundi.
Avec plaisir, bonne journée.
Sophie Kepes, vous êtes traductrice, on l'a dit tout à l'heure, et si j'ai bien compris dans certains de vos articles, vous ne parlez pas hyper bien le hongrois. Alors comment c'est possible ?
Oui, ça étonne beaucoup.
C'est encore un des mystères de cette langue.
Oui, ça étonne les Hongrois eux-mêmes. Non, c'est mon parcours personnel aussi, parce que je l'ai appris assez tard, ce n'était pas mes premières études. Et puis, j'avais toujours demandé à mon père de parler avec moi hongrois à la maison, toute petite, enfin. Et il ne voulait pas, il n'avait pas le temps, etc. Et je crois que c'est parce qu'il souhaitait s'intégrer à la société francophone. Bon, il n'avait pas envie, finalement, de revenir en arrière, comme pas mal d'exilés, il avait plutôt envie de regarder devant lui. Et bon, j'ai entendu parler cette langue en famille, en quelques réunions de famille, si vous voulez, mais pas régulièrement. Et donc, elle est si particulière, comme on le soulignait tout à l'heure, que je pense que quand je l'ai appris, c'était plus ou moins fini. Je ne pouvais plus, c'est trop tard pour que ça devienne naturel de la parler. Alors, aussi, les séjours que j'ai pu faire là-bas sont toujours trop courts. Donc, je comprends, j'ai une très bonne connaissance passive. Mais d'une manière plus générale, j'ai pas mal de collègues, de consoeurs et confrères traducteurs d'autres langues, évidemment, que du hongrois. Et en fait, on est tous d'accord pour dire que pour traduire, il faut avant tout avoir finalement une fibre littéraire très développée, une sensibilité littéraire, une grande culture littéraire, ça c'est essentiel. Et le fait de savoir parler la langue n'est pas du tout indispensable. Quand il nous manque un mot, on peut toujours le vérifier dans de magnifiques dictionnaires faits pour ça. Et on se renseigne. Donc, vous seriez étonné de rencontrer de très grands traducteurs d'anglais vers le français, par exemple, qui parlent anglais comme des pieds, alors que, bon, c'est quand même une langue plus facile que le hongrois.
Vous racontez que dans une soirée, une autre traductrice vous a dit un bon auteur à traduire, c'est un auteur qui est mort.
Oui, alors ça c'est oui.
Parce que durant la traduction, justement pendant deux ans de Peter Eshtarazi, vous dites que c'est la folie parce que c'était codé, c'était caché. Il a écrit tout ça pendant la censure, donc c'était hyper complexe à comprendre pour vous ce qu'il voulait dire. Mais comme il est vivant, vous pouviez l'appeler, mais en même temps il parlait pas bien le français et vous pas bien le hongrois. Donc ça donne vraiment envie de découvrir ce livre parce qu'il est vraiment issu de deux ans d'aventure pour arriver à dire en français ce qu'il essayait de dire en hongrois.
Oui, deux ans de ma vie, mais c'est vrai qu'il y a une relation d'amour-haine qu'on a soit avec le texte, soit avec l'auteur s'il intervient. Alors, Peter Eshtarazi intervenait vraiment à la demande, hein, mais il y a des histoires où l'auteur est persuadé qu'il parle mieux le français finalement que le traducteur, et il veut contrôler la traduction. Et là, c'est l'enfer. Donc, j'ai pas eu trop affaire à ça dans ma carrière de traductrice, mais je connais des exemples. C'est terrible, et finalement, même, surtout si l'auteur qu'on traduit n'est pas lui-même traducteur. L'idéal, c'est de travailler avec un auteur qui est aussi traducteur dans sa langue maternelle. Lui, il sait, il comprend, il connaît les contraintes. Alors, pourquoi on se dit que ça serait bien finalement de se limiter à traduire des auteurs morts ? On est sûr qu'ils ne vont pas interférer sur votre travail.
Vous avez écrit aussi des romans, donc là on vous découvre avec ces quelques nouvelles. Vous avez écrit un roman qui s'intitule « En automne à Budapest » et j'ai envie de vous faire écouter ce son où on entend une journaliste que vous connaissez, je crois, Dita Kauzai.
En 1989, plus exactement le 16 juin 1989, il y avait un grand rassemblement ici à Budapest Il y avait 200, 300 000 personnes sur la place. Il y avait l'électricité déjà dans l'air. Et puis, à la fin, il y avait un jeune politicien qui s'appelle Viktor Orban. Il était fondateur du Parti Jeune Démocrate. Il a fait un discours qui a fait trembler du monde à Budapest, et surtout ici. Il a osé dire en 1989, on était encore occupés par les Soviétiques, que les Russes doivent rentrer chez eux et ils doivent quitter la Hongrie définitivement. C'était un moment que je n'oublierai jamais, 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 jamais dans ma vie. Et on dit que c'était la première fissure dans le mur de Berlin.
Sophie Kepes, chaque fois qu'on parle de ces pays de l'Est et de ce moment de 89 quand le mur est tombé, c'est plein d'émotions, d'une forte émotion. Comment vous avez découvert Budapest et quel est le lien qui vous lie à cette ville qui était peut-être la ville de votre père, je ne sais pas.
Oui, il est né à Budapest et il a quitté la Hongrie à l'âge de 17 ans. Et en fait, nous y sommes retournés en famille, tout simplement, dès que ça a été possible. Donc, c'est dans les années 60. J'ai une vision d'abord enfantine de ce que c'est que passer le rideau de fer, donc de voir pour la première fois de sa vie des armes. En plus, on n'avait pas la télévision, donc je ne peux pas dire que j'avais vu des armes à la télé avant. Hein, c'était tout à fait impressionnant de passer un no man's land, d'avoir la voiture familiale démontée pièce par pièce, et de passer une journée entière à la frontière. Et puis toute l'étrangeté d'être là-bas et en même temps un choc sensuel parce que on découvre la grande plaine hongroise, disons l'équivalent de la steppe si vous voulez, on découvre le lac Balaton qui est une ancienne mer dont il ne reste plus que ce lac qui est assez grand mais qui n'est qu'une toute petite confetti, si vous voulez. Et puis, on découvre Budapest, qui est surdimensionnée par rapport au pays. Et qui est une ville merveilleuse, hein, sans doute moins homogène architecturalement que ne peut l'être Prague, mais absolument merveilleuse et vivante. Et voilà. Et on découvre toutes ces saveurs. On parlait du paprika, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai mangé de la pastèque, que j'ai mangé du maïs grillé, des choses très exotiques pour moi, qui grandissaient dans le nord de la France. Et puis, voilà qu'on rentre. Alors ça, c'était août 68. Hein, et si ça vous dit quelque chose...
Vaguement, eh bien, oui. Vaguement, le printemps j'imagine. De Prague, oui.
Voilà. En août 68, donc, les tanks du pacte de Varsovie sont allés écraser donc, les malheureux Tchèques, les malheureux Pragois. Mmh. Évidemment, je ne comprenais rien à tout ça, sauf que je me souviens très bien que mon père a dit « Bon, ben, on remballe quelques jours plus tôt que prévu parce qu'on est invité en tant qu'étranger à quitter le territoire hongrois ». Et on entendait les informations, et voilà, je comprenais un tout petit peu. Mais en tout cas, je pense que c'est la première fois que le vent de l'histoire est en train de se faire et passer sur mon visage. Et je pense que c'est quelque chose qui peut expliquer ma sensibilité particulière dans mes œuvres à l'histoire, enfin l'histoire contemporaine, l'histoire en train de se faire. Donc le livre auquel vous faites allusion, Un automne à Budapest, qui est déjà un roman que j'ai écrit il y a assez longtemps, c'est mon premier roman documenté d'abord, où j'ai interviewé quelqu'un qui avait été interné dans le goulag hongrois pendant des années. Et quand je l'écrivais, la ville en question, le camp de concentration n'était même pas indiqué sur les cartes, vous savez, hein, ça n'existait pas. J'ai utilisé ce matériau, j'ai utilisé des documents, évidemment, que j'ai consultés, des livres que j'ai lus et tout ça. Et j'ai essayé de raconter ce que c'est justement d'être un exilé et d'être persécuté, voilà, par un totalitarisme finalement. C'est vrai que ça explique certainement que dans mes livres, il est beaucoup question de cette autre Europe, de cette Europe qu'on connaissait mal il y a encore quelques années, qu'on est en train de découvrir, nous les gens de l'Ouest.
Mais justement, vous sentez quelqu'un de l'Ouest, avec une certaine prédisposition, puisque votre père venait de cette partie de l'Europe. Mais vous pensez que vous avez un regard de quelqu'un de l'Ouest sur ces pays ?
Certainement, je suis quelqu'un de mixte, je suis quelqu'un qui est à mi-chemin, qui est un peu... En tout cas, le fait que j'ai cette ouverture et cet intérêt sur la partie mystérieuse et orientale de l'Europe, ça a certainement conditionné beaucoup de choses dans ma vie, pas seulement que je sois traductrice, mais pas seulement même l'importance que ça a dans mes livres, mais certainement mon regard était déjà décentré par rapport à mes camarades de classe, c'est sûr, hein, c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que je me suis aussi beaucoup plus identifiée à ces racines paternelles qu'aux racines maternelles. Alors, nous sommes trois enfants, j'ai un frère et une sœur, et je l'ai constaté plus tard dans mes études de hongrois, c'est que mes camarades, si vous voulez, étaient un petit peu dans le même cas que moi. Dans une fratrie, on remarque généralement, il y a une personne, un enfant, fille ou garçon, qui assume particulièrement l'aspiration au retour aux sources, à intégrer cette partie étrangère, exotique à sa propre vie. Donc c'était moi, c'est aussi lié à l'écriture, c'est moi la gardienne des histoires, et il faut dire que dans ma famille paternelle, il y a une espèce de vivier d'histoires invraisemblables et pittoresques tellement incroyables que j'hésite encore à m'en servir dans mes écrits.
Sophie Kepes, je rappelle le titre de l'ouvrage qui nous permet de nous rencontrer ce matin, Le fou de l'autre, aux éditions Noir sur Blanc. Je vous propose un titre et ensuite on va partir du côté de Sarajevo. I know you wanna. I know you wanna. I know you wanna. Yeah. Me, I play. I like to play cheek to cheek. Two kids in a sandbox, babe. You remind me of Saint-Tropez, sandy beaches and yachts, yeah, and champagne. Tuxedos and jet skis, babe. I lay it down at the George Saint, babe. And baby, when we dream, when we dream, we'll be dreaming, we'll be dreaming in French, babe. Me, I play. I'ma treat you like a lady. You will be my pretty baby. We can spend all my money, baby. Cheek to cheek, girl, me, I play. I'ma treat you just like a lady. You can be my pretty baby. We can spend all my money, baby. I know you wanna. Uh-huh. I know you wanna. Uh-huh. I know you wanna. Uh-huh. I know you wanna. Hold up. No hablé, inglés, cause me I play. Saint-Tropez down in Saint-Gosé. Yacht dock not far away. Black Bridget Bardot, Beyoncé. Avant-garde, love on socks, Kobe Picasso, I'm art on yachts. Pardon me, we in Paris, champagne spilling out of my wee-wee. Pardon my French, je ne sais quoi, got me on cloud nine, we finna take off. Patty was a tease, now we in the Maldives, sipping Blanco, smoking on T-Leaves. Isn't this great, strawberry crepes, down in Capri, in the grotto we play. Up next, Sardinia, me and little Tina, turn up, tell me, have you seen us, enough. I'ma treat you like a lady. You will be my pretty baby. We can spend all my money, baby. Cheek to cheek, girl, me, I play. I'ma treat you just like a lady. You can be my pretty baby. We can spend all my money, baby. I know you wanna. I know you wanna. I know you wanna. May play Robin Sike sur Radio Suisse Romande la première et on va rejoindre Karel Menin à Sarajevo.
Je continue la petite visite de la rue Ferhadija quand vous sortez du marché couvert. Alors à ma droite il y a une mosquée, une des anciennes mosquées de Sarajevo. Et puis surtout dans cette rue, je suis en train de longer des façades de couleur verte, ocre, jaune, rose pâle, qui ont vraiment un style slave absolument superbe. On dirait que cette rue-là a été épargnée par la guerre. Elle est décorée encore des décorations de l'hiver. Et puis on flâne, on fait les boutiques qui sont de style très européen. La mode d'ailleurs ici est européenne. Et c'est une rue très animée, très agréable, qui se poursuit par des petites boutiques en bois, qui sont des boutiques de joailliers, des tapis, des pâtisseries, du cuir aussi, et qui permettent aux touristes de faire leurs courses et aux Sarajeviens de venir prendre un café et une pâtisserie locale et de se réchauffer.
Sophie Kepes, Sarajevo est une des autres villes de l'Est qui vous a passionné. Vous avez situé un café sur la colline, un de vos romans écrits en 2007. À cet endroit, c'était en parlant aussi de l'énorme conflit qui a pu se passer, de tous les moyens de destruction qu'on a mis en place dans ce conflit. Vous êtes allé en Bosnie. Quand on parle Sarajevo, en général, on pense à Kusturica et à Bregovic, qui actuellement vivent plutôt à Belgrade qu'à Sarajevo, je crois. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette ville ?
Alors c'est vraiment dans le droit fil de ce qu'on disait à l'instant sur la Hongrie. C'est vrai que Sarajevo, c'est la ville chère à mon cœur entre toutes. Peut-être, c'est idiot de comparer, mais j'adore Paris, j'adore Budapest, mais c'est une ville martyre, c'est une ville qui a souffert, donc il faut l'aimer encore 10 fois plus, elle le mérite. Alors c'est lié parce que en fait, quand l'ex-Yougoslavie a éclaté, enfin tous les conflits des années 90, ça a eu un énorme impact sur moi. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on sait que surtout en Bosnie, enfin c'est le retour du génocide en Europe 50 ans après la Shoah, donc je pense qu'en effet, il y avait de quoi alerter les consciences de chacun, mais enfin, au-delà de ça, c'était quelque chose d'inconcevable, parce que c'est vrai, on dit souvent, c'est tout près de chez nous, c'est à 2 heures d'avion, et puis ce que disait donc la journaliste dans le reportage...
Karel Menin, oui.
Voilà, c'est que ils sont comme nous, les gens là-bas, ils s'habillent comme nous, ils ont les mêmes standards de vie. C'était déjà le cas avant le début de l'agression, le début de la guerre. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, j'étais jamais allée là-bas, et au début, c'était une espèce de révolte abstraite, d'indignation. C'est quand j'ai vu pour la première fois dans le journal les mots purification ethnique, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, mais je sais très bien ce que c'est toujours la même chose. Et c'est peut-être parce que je suis écrivain que j'avais cette sensibilité au langage. Vous savez, Eugène Ionesco, dans la pièce La Leçon, dit « La philologie, c'est le crime ». Alors, c'est vrai qu'on est ex-Yougoslavie, à Belgrade en particulier, on a préparé l'agression des voisins par un mémorandum de l'Académie serbe, c'est-à-dire par une rhétorique, un arsenal de phrases, de mots qui vont servir à créer la haine et à pousser les gens à prendre les armes et à agresser leurs voisins. Donc les mots sont tout, les mots font tout, et ça ne c'est pas prêt de changer. On l'a vu aussi au Rwanda. Hein. Donc moi, j'étais d'abord une espèce d'ignorante, et je me suis, pour la première fois de ma vie, engagée, si vous voulez, contre le nettoyage ethnique en ex-Yougoslavie, pas pour telle ou telle composante, c'était absolument idiot, c'était pas ça, c'était plutôt contre. Je ne veux pas de ça chez moi. Je peux vraiment résumer ma révolte de l'époque à cette phrase, je veux pas de ça chez moi. Et c'est là-bas, même si je suis jamais allée, c'est chez moi. Donc, ensuite, étant écrivain, et c'est vrai qu'il me fallait avoir une expérience directe, et ça m'a amené à aller là-bas pendant quelques semaines, à l'été 94, au milieu du siège, donc, à Sarajevo, et pour participer au tournage d'un documentaire. C'était un petit peu un prétexte. Je voulais aussi rencontrer des écrivains, les inviter à venir s'exprimer dans une tournée à l'Ouest, en France en particulier. Voilà, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis, après, quand vous rentrez, enfin, si vous voulez, c'est la rencontre avec l'histoire en train de se faire avec un grand H. Je crois qu'elle a lieu une fois par génération. C'était ma foi à moi, si j'ose dire. Puis vous rentrez et vous savez que vous devez écrire quelque chose, parce que c'est votre job. Et puis, peut-être que même aucun autre sujet n'a requis de vous aussi impérativement le fait d'être traité. Et il m'a fallu 10 ans pour y arriver. C'est-à-dire, j'arrivais pas, je savais que je devais parler en mon nom, mais au nom des victimes, au nom des gens qui m'ont accueilli là-bas. Et je me sentais écrasée par l'ampleur de la tâche. Je sentais peut-être que j'avais pas les moyens littéraires, tout simplement, pas les épaules assez larges. Et puis, à chaque fois que je rouvrais mes carnets de notes, à chaque fois que je voulais. Et puis, l'histoire continuait en plus, hein, donc, parce qu'elle a duré une dizaine d'années quand même. Et j'étais toujours engagée, impliquée. Et donc, émotionnellement, c'était extrêmement fort. Et je n'arrivais pas à métaboliser ça en littérature. Ça m'a pris 10 ans. Et j'ai enfin, après 3 versions définitives et d'innombrables tentatives intermédiaires, j'ai enfin réussi à écrire Un café sur la colline, paru en effet il y a 3 ans chez le même éditeur, Noir sur Blanc. Et ce qui est très très étrange, c'est que l'ayant écrit, tous mes symptômes de stress post-traumatique ont disparu comme par miracle. C'est-à-dire quand je suis dans la rue Ferhadia, dont parle Karen tout à l'heure, et bien que je connais bien, quand je suis dans le bazar qu'elle commence à décrire, je ne ressens plus de sueur froide. J'ai pas les yeux qui se mettent à verser des larmes comme ça instantanément et sans raison. C'était vraiment pour moi toujours très dur de revenir là-bas. J'y reviens régulièrement, environ une fois tous les 2 ans. Et maintenant, voilà, c'est fini, c'est transformé en littérature, c'est parti dans le monde d'une autre façon, sous forme de livre. Et encore une très belle chose, c'est qu'Un café sur la colline, à son tour, en allant comme ça dans le monde, m'a permis de faire des nouvelles rencontres et de commencer d'autres histoires, d'autres relations avec les gens de là-bas. Donc voilà, la boucle est bouclée. Moi, je me dis, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ce que je pouvais faire et je peux peut-être enfin passer à autre chose et je peux passer aux nouvelles, aux fous de l'autre, qui sont quand même, qui ont moins de gravité, je pense.
Alors justement, on sent en vous écoutant que les mots sont vraiment importants, que l'écriture a une dimension pour vous pas seulement esthétique, de pratiquer un talent, mais c'est plus engagé que ça. Et là, j'ai envie de parler avec vous des cours que vous donnez de création littéraire. Et si j'ai bien compris, vous avez donné des cours de littérature ou de création littéraire à des jeunes en difficulté dans les banlieues parisiennes. Ouais. Et à ce moment-là, quel était le rôle ? Parce que bon, c'est clair que pour vous aussi, l'écriture vous a permis d'exprimer des choses fortes émotionnellement. Est-ce que c'est cette dimension de l'écriture que vous essayez d'enseigner ?
Oui, tout à fait. C'est pendant une douzaine d'années, un petit peu plus, c'est au début des années 90 et jusqu'aux premières années 2000, j'ai vraiment sillonné les banlieues, essentiellement ces banlieues qu'on dit sensibles pudiquement, mais enfin qui sont plutôt brûlantes et plutôt défavorisées. J'ai fait, je pense, pas moins de 200 ateliers d'écriture voilà, dans ces coins-là. Alors... Il y avait plusieurs objectifs. Hein. C'est quand même des programmes qui sont financés pour mettre en contact la littérature vivante en train de se faire avec les jeunes. Alors, je dois quand même dire que le fait d'envoyer un écrivain vivant, un écrivain femme de surcroît, c'est important. Rien que ça, c'est important parce que les livres souvent sont ressentis comme une chose morte et poussiéreuse. Et rien que cet acte-là, à la limite, bon, change déjà un tout petit peu quelque chose chez ces jeunes. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai essayé de faire avec ce que j'avais ? C'était, bah, oui, de transmettre ma pratique. Je pense que je fais ça un peu comme un artisan forme un apprenti. Mmh. C'est-à-dire que, bon, c'est pas un enseignement. Hein. Enfin, il y a de la pédagogie, c'est sûr, mais c'est plus une transmission pratique. Et moi, j'accompagne les jeunes à écrire, à mettre en forme quelque chose. Je suis une espèce d'accoucheuse. J'essaye d'aller au bout avec eux. Je suis extrêmement pugnace, tenace. Hein. Je ne les laisse pas partir sans m'avoir donné au moins un texte. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'ils n'y croient pas d'abord, parce qu'ils ont une relation un petit peu biaisée à l'écriture, dans la mesure où c'est quelque chose qui va être noté, évalué, et ils sont en échec scolaire. Donc, bon, déjà,
vous parlez des jeunes dans les banlieues, voilà. Donc maintenant.
Des jeunes des banlieues, oui, je ne parle pas pour l'instant des étudiants. Et donc, pour eux, écrire, c'est faire des fautes. Faire des fautes, c'est avoir une mauvaise note. Avoir une mauvaise note, c'est pas passer dans la classe supérieure et être rejeté du système scolaire. Bon. Donc, je dois déjà essayer de leur dire que... Enfin, de leur rappeler, c'est fondamental. Qu'ils ne savent plus ou qu'ils n'ont jamais su, je ne sais pas. Parce que les professeurs de lettres qui m'accueillaient sont souvent des gens très engagés et merveilleux et ouverts. S'ils m'accueillent un écrivain, bon, c'est déjà qu'ils sont très ouverts. Mais voilà, j'ai l'impression que les enfants, les jeunes, ils ne savent pas que l'écriture, ça sert à autre chose que de passer dans la classe supérieure. Ça sert à transmettre, c'est en effet la mémoire collective de l'humanité, c'est sortir de la préhistoire, c'est aussi pouvoir écrire une lettre qui sera comprise de tous et en particulier de son destinataire. Enfin, que l'écriture a plein de fonctions fondamentales pour l'être humain, j'ai l'impression souvent qu'ils l'ont, oublié. Donc je rappelle ça dans la mesure du possible. Et puis ce que je leur propose, c'est de se fier à des ressources que tout être humain partage, c'est-à-dire l'intuition, l'inconscient. C'est-à-dire de commencer à écrire sans trop savoir où ils vont, et de se fier au langage, de se fier à ces ressources qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans un cadre scolaire où on est en général amené à recourir à sa mémoire et à ses connaissances et à l'analyse et à la raison. Voilà. Et quand j'ai fait ça, bah écoutez, je suis contente. Hein, même
ça
si
marche. Je veux dire, ça marche. Il joue oui. Le jeu. Il découvre une autre dimension de l'expression littéraire.
Oui. Alors moi, j'ai l'impression que ça marche. Je vais vous dire pourquoi. Sur une classe de 25 à 30, j'en vois un, mais généralement deux en moyenne, qui captent quelque chose. Alors bon, ils deviennent peut-être pas Tolstoï du jour au lendemain, mais il y a cette révolution minuscule qui fait tout le prix de notre engagement. C'est-à-dire cette petite lueur dans l'œil, le fait que d'un seul coup, il y a quelque chose qui passe. Je ne sais pas, si vous voulez, c'est comme semer une graine et je ne sais pas si elle va donner un arbre superbe ou bien si ça sera, hélas, éphémère. J'en sais rien, puisque je ne reviens pas sur les lieux. Mais moi, je trouve que c'est extraordinaire. Hein. Si on fait actuellement, si vous voulez, en France, on fait pas mal d'évaluations quantitatives, par exemple, de ce genre d'action, parce que ce sont des programmes qui coûtent un peu d'argent, évidemment. Et puis, ben voilà, on vous demande combien d'élèves, combien de pages ils ont fournies, etc. Bon, moi, je veux bien, mais ce qu'on saura jamais mesurer, c'est le qualitatif, et c'est évidemment toute l'importance. Donc moi, j'ai vraiment toujours eu l'impression d'être utile, et je trouve que 2 élèves sur 30, c'est une proportion énorme, en fait.
Si après, voilà, donc, ils sont actifs, si après, ils sont convaincus à leur tour, ils font transmettre ce plaisir de l'écriture, c'est évident que c'est beaucoup.
Mais oui, voilà, donc c'est un succès, voilà, il me semble. Alors avec les étudiants aujourd'hui c'est un petit peu différent parce que là, c'est
donc les étudiants
de la création,
à la Sorbonne, donc ce sont des gens déjà qui ont fait des enfin qui sont en pleines études, donc qui ont un autre niveau, on va dire culturel aussi, peut-être moins de complexe aussi, et avec eux vous faites de la création littéraire plus classique.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'ils sont, volontaires, ils sont cultivés, ils sont eux-mêmes des lecteurs, puisqu'ils sont en département de lettres, n'est-ce pas? Ils sont assez jeunes, hein, je les ai en première, deuxième année, donc ils ne sont pas encore trop déformés par l'académisme vraiment stérile de la fac. Je suis un peu rude, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que l'académisme, c'est quelque chose qui vous fige. Et donc les jeunes auxquels j'ai affaire, bon, un peu moins jeunes, certains d'ailleurs, finalement, je les ai peut-être déjà croisés 10 ans plus tôt en banlieue, c'est amusant. Des fois, je me pose la question, je me dis, ça va forcément arriver. Enfin, ils arrivent avec ce désir, déjà, et ce bagage. Et il y a quelques petites résistances, hein, quand je leur dis, faites confiance à votre inconscient, ne faites pas de plan pour l'instant. Nous allons bien sûr structurer votre nouvelle, mais nous allons le faire en cours de route, au fur et à mesure, nous allons revenir sur la première version, mais pour l'instant, fiez-vous au langage et faites confiance à ces ressources de l'inconscient. J'ai toujours quelques résistances, mais s'ils acceptent de jouer le jeu, sachant que je suis là, je leur tiens la main, hein, ils ne vont pas tomber en cours de route, je les accompagne. Alors là, c'est vraiment, c'est merveilleux, c'est très gratifiant. Et je dois avouer que comme c'est vrai, j'étais un tout petit peu fatiguée d'être dans les trains de banlieue, je suis vraiment maintenant totalement récompensée avec mes étudiants.
Alors, on n'a pas beaucoup parlé du livre qui nous a permis de nous rencontrer ce matin dans Rien n'est joué. Sophie Kepes, donc Le fou de l'autre, aux éditions Noir sur Blanc. On pourrait dire que c'est vraiment un livre de nouvelles, donc on l'a dit, mais de fiction par rapport à ce qu'on a évoqué, Budapest, ensuite Sarajevo. Comment vous avez travaillé justement cette fiction? Parce que ce sont des histoires, malgré tout.
Oui, bon, c'est vrai que j'ai cherché à montrer une espèce d'éventail de situations. Bon, certaines, vous l'avez souligné au début, assez cocasse, assez grotesque, mais vous savez, c'est une banalité, mais c'est vrai que la réalité dépasse la fiction, hein, ça c'est sûr.
Il faut plutôt surtout en dans retirer. Ce domaine, oui, oui.
Oui, il faut plutôt en retirer qu'en ajouter. Oui. Bon, donc je voulais montrer diverses situations à travers ce thème de la difficulté de la rencontre amoureuse. Où... Mais enfin, il y a des nouvelles où il n'est pas question de sexe, il y a des nouvelles de jalousie, de frustration, de rumination, Bon, voilà, il y a un tout petit peu...
Mais il y a toujours un rapport homme-femme, hein, quelque
voilà,
part.
Voilà, l'idée, c'était, voilà, l'une narratrice, c'était un point de vue féminin. Et alors, c'est vrai que d'ailleurs, j'ai un lecteur qui m'a écrit une très belle lettre, il est éditeur à Strasbourg, et il me disait, ce livre, ça confirme ce que je pense depuis longtemps, à savoir qu'il n'y a pas un point de vue féminin où il y a un point de vue masculin dans la littérature. Moi, je me sens très, très proche de ton univers dans ce livre-là. Ça m'a fait très plaisir. Mais quand même, je l'ai écrit d'un point de vue féminin, bien sûr, avec cette unité thématique. Mais c'est vraiment... oui, je voulais montrer, si vous voulez, les petites ironies de la vie aussi, le côté inattendu, les choses qui se passent jamais comme on l'a pensé, comme on l'a imaginé. Ça, c'est plus généralement humain, hein, c'est pas que seulement dans les relations. Puis je sais pas, moi je me garderais bien de dire que je suis une spécialiste de la relation des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Bien sûr que j'essaye de raconter des histoires d'aujourd'hui, puisque je vis aujourd'hui. Mais je sais pas, il me semble que bon, un thème quand même important qui ressort du fou de l'autre, c'est les contradictions entre les émotions, les affects, le corps et la raison, hein, qui en général sont jamais en phase, déjà à l'intérieur de la narratrice, et deuxièmement, entre la narratrice et ses divers partenaires. Et ça, quelqu'un me disait, c'est moderne, c'est actuel, ce thème. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Moi, il me semble que...
ça a toujours été comme ça.
Oui, quand Madame de Lafayette ou Jane Austen... ou Marcel Proust, ou Anton Tchekhov, ou Léon Tolstoï parle de l'amour, des relations, ou Stendhal, qui en est le grand maître, parle des relations amoureuses ou des relations simplement entre hommes et femmes, ils ne font rien d'autre que d'exprimer ces contradictions, ces intermittences du cœur, comme dit Proust, en fait, ces difficultés à être en phase entre diverses instances de notre moi. Donc les émotions, la sensualité, la raison, et puis l'autre. Alors l'autre homme, en l'occurrence, c'est vrai que, bon, comme vous citiez l'exergue Ferdinando Camon dans La maladie humaine en 81, donc il est difficile d'être une femme toute s'en plaigne, il est impossible d'être un homme, aucun n'y parvient. Là, ça rejoint peut-être un thème moderne, mais de moins en moins. C'est un thème qui a été traité par la philosophe Elisabeth Badinter, vous savez, dans un livre paru en 1986, L'un est l'autre, EST, L'un est l'autre. Elle analyse, donc, enfin voilà, ça fait 25 ans qu'on en parle, qu'on écrit à ce sujet. Elle analyse cette difficulté plutôt de se comporter comme on imagine que la société attend que vous vous comportiez quand vous êtes un homme ou quand vous êtes une femme. Là, c'est vrai qu'il y a quelque chose de moderne, enfin, une transition qui n'est sans doute pas encore achevée vers quelque chose qui nous fait un peu peur, c'est plutôt donc le partage des rôles masculins et féminins dans la société occidentale contemporaine. Donc ça, c'est sûr que c'est un thème que je traite aussi dans Le fou de l'autre, un petit peu en
vous voulez dire pointillé. Que ça bouge, quoi, en fait. Oui. Les rôles ne sont pas aussi bien définis, aussi bien établis.
Absolument, ça bouge et comme dans toute phase de bouleversement, de métamorphose, ça a des conséquences sur les individus. On est un peu perdu. Donc tout ce que je raconte, qui est très ancien, sur les difficultés à être en phase avec l'autre, je pense que ça, c'est vraiment directement lié à ce phénomène de transformation socio-culturelle.
On n'en dira pas plus pour laisser le mystère à nos auditeurs qui voudraient découvrir votre ouvrage. Donc Sophie Kepes, Le fou de l'autre, c'est aux éditions Noir sur Blanc. Merci pour cette heure d'échange et de voyage et de philosophie, Sophie Kepes. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci, Lydia.
Rien n'est joué, Lydia Gabor.
On va se retrouver lundi avec le photographe Yves Lerèche pour parler des communautés roms de nouveau dans les pays de l'Est. Et ben c'est comme ça, des fois il y a des coïncidences. Il est bientôt 11h sur Radio Suisse Romande, la première. Bon week-end à vous.